Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello. Soyez les bienvenus, c'est un nouvel Instant M qui redémarre sur France Inter.
Vous êtes en direct, allez-y.
Laurent Ruquier anime un concours d'éloquence à la télévision. J'ai pas intérêt à bafouiller. Engouement pour ce type de dispositif depuis À Voix Haute, le film de Stéphane de Freitas qui a magnifiquement médiatisé son programme éducatif baptisé Éloquentia. Il est normal donc que le service public emboîte le pas. À ceci près que le petit écran ajoute à la parole l'image, et ce n'est pas anodin. Vous me direz, faire de Laurent Ruquier le maître de cérémonie de ses joutes verbales, n'est pas anodin non plus, car la maîtrise, la puissance, la jouissance de l'oralité constituent le fil rouge de sa carrière, depuis la radio jusqu'au théâtre. Or, entre la radio et le théâtre, il y a quoi pour Ruquier ? La télé, le talk show, littéralement, spectacle de la parole.
L'Instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
J'ai bafouillé, je suis éliminée. Bonjour Laurent Ruquier.
On vous rattrapera.
Merci. Donc, la voix des grosses têtes, tous les après-midi, sur RTL à 16h. Là, j'embrasse mon directeur des programmes qui est en général ravi que je donne ce genre de détails. Le visage aussi de On n'est pas couché, le samedi soir en deuxième partie de soirée, mais aussi des enfants de la télé, le dimanche à 18h. Sur France 2, le grand oral aussi, c'est sur France 2, c'est le concours d'éloquence demain soir à partir de 21h. Alors, au jury, des Dominique Besnéard, agent d'acteur, des Bertrand Perrier, avocat, des Oxmo Puccino, chanteur, des Roselyne Bachelot, ancienne ministre.
Les trois mots d'ordre de notre grand oral. Convaincre, émouvoir et divertir.
Mais nom d'un chien, pourquoi est-ce que les politiques ne parlent pas de la même façon ?
Alors, je ne sais pas si tu vas gagner ce soir, mais en tout cas, si tu le décides et si tu le veux, moi je t'offre une première partie sur une vraie scène face à des gens.
Tu vas être un formidable avocat, tu n'es pas encore mon confrère, mais tu es déjà mon frère.
L'éloquence, Laurent Ruquier, est une histoire qui remonte à votre enfance, celle passée dans un milieu modeste où vous avez écouté jusqu'à plus soif des voix, les voix de la radio.
Ça, c'est vrai.
Avant d'en devenir une. Ah,
absolument. J'ai écouté la radio qui était ma fenêtre, voilà, ma fenêtre sur l'extérieur. C'était la radio, que ce soit Europe 1, RTL, ouais. France Inter, les ouais. trois radios, RMC même parfois, mais qu'on recevait mal à l'époque. Mais oui, c'était ces voix-là qui me faisaient envie de faire ce métier.
Et qu'est-ce qui vous fascinait dans cette oralité-là, dans cette éloquence-là, cette oralité radiophonique?
Justement, des voix différentes. Moi, ce que j'aime toujours, c'est la différence. Et d'ailleurs, je déteste souvent les animateurs qui sortent d'école de radio, parce que ce que je trouve intéressant dans les voix, et dans l'éloquence, et dans la façon de parler, c'est justement la singularité d'un animateur, d'une animatrice, ou donc d'une voix qu'on découvre.
Vous diriez, vous, que vous avez connu une radio beaucoup plus diverse qu'elle ne l'est aujourd'hui?
Non, non, ça va encore. Je trouve que la radio n'a pas
ne s'est pas trop lissée.
Non, absolument. Ouais. Peut-être plus les chaînes de télévision, mais en tout cas,
pas
à la radio,
radio,
il y a encore une vraie liberté qu'on ne trouve pas forcément ailleurs.
Ouais, et là, dans le concours sur France 2, il y a des candidats venus de toutes parts, qui ont tous les âges, qui viennent de tous les milieux sociaux, qui ont tous les profils. Alors moi, on m'a dit, un forain, un retraité, un interne en médecine, une femme qui est atteinte de surdité, ça doit modifier. Un chauffeur de bus. C'est-à-dire que dans l'idée d'éloquence, il y a l'idée de maîtrise, de perfection, de savoir-faire. Il n'empêche, chacun reste lui-même jusqu'au bout.
C'est le but. Je pense que de toute façon, on ne parle jamais mieux que quand on a confiance en soi et quand c'est pas le cas là quand je vous réponds d'ailleurs parce que
pourquoi
j'hésite dans les mots
ouais.
mais en tout cas
bah vous êtes éliminé aussi.
non mais c'est ça, c'est montrer qui on est et là à partir de là l'oralité va venir plus simplement. C'est le problème d'ailleurs des bègues, c'est le problème du défaut de prononciation moi que j'ai toujours un peu mais que j'avais encore plus prononcé quand j'ai démarré à la radio et ainsi
de suite.
Et qui
ne vous a pas empêché de faire carrière.
Absolument, c'est ça qui est formidable parce que ça donne je suis pas le seul, Dominique Besnéard encore plus que moi dans le jury, ça donne des exemples aussi à nos candidats. Parce que derrière leur candidature, il y a une ambition aussi cachée chez chacun.
Qui a été la vôtre pendant longtemps.
Évidemment.
Pendant 4 ans, vous avez animé à la télévision On ne demande qu'à en rire. Alors, il y avait du public, il y avait un jury, il y avait des candidats humoristes.
Non mais, le vrai problème, c'est quoi?
Je sais pas.
Mais c'est que vous n'avez pas d'utérus! Cette espèce-là de poche-là de créativité, d'où sort l'humanité, hein? L'utérus, il y a quoi dans l'utérus? Bah, il y a lutte, il y a terre, il y a huche.
Bonjour, je m'appelle Jean-Claude. Ça fait maintenant 3 ans que je travaille dans cette entreprise de restauration rapide. Et c'est pour ça que j'ai le sourire. Vous vous dites, toi Jean-Claude des frites, t'as dû en faire. Non. High school, oui. Parce que le lycée aux États-Unis s'appelle le Western High School. Toi, t'es au lycée Marie-France, Joël, tu vois. Oui, le Western High School. Tu vois, t'as fait, hey, ça va, Marlene, va faire, ça va, et toi, avec des cœurs, genre, il va bien, hey, il va bien, oh.
Par ordre d'apparition, notre amie Nicole Ferroni, Ahmed Silla, Kev Adams, qui ont été révélés dans cette émission. Était-ce un concours d'éloquence? Quelle différence avec ce qu'on verra demain soir? Vous me direz évidemment l'obligation de rire ou de faire rire, c'est évident. Alors plus intéressant, qu'est-ce qu'il y aurait justement en commun dans un bon candidat de On ne demande qu'à en rire et dans un bon candidat du grand oral?
En fait, ce qui est intéressant et le point commun dans les deux émissions, c'est que l'oral rejoint ou l'écriture rejoint l'oral aussi. Parce que c'est pas non plus un concours d'improvisation.
Non.
Donc ils ont évidemment travaillé, ils ont écrit leurs interventions, ils les ont préparé avec des coachs même, et donc évidemment mieux c'était écrit, plus parfois ça pouvait être drôle aussi, pas tous, mais certains avaient choisi l'humour. Il y a différentes façons de s'exprimer, donc là c'est sûr que ça n'a rien à voir avec un concours d'humoriste, mais je pense que c'était évidemment un atout supplémentaire s'il y avait un peu d'humour dans leurs interventions.
En fait, j'ai l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. On écoute Gisèle dans le grand oral de demain soir.
Moi je veux vieillir comme Meryl Streep, je veux pétiller comme Lynn Renault. Ce soir, puisque l'occasion m'en est donnée, je veux crever l'écran et vous convaincre que malgré les outrages du temps, la vie ne s'arrête pas à 60 ans.
Je parle à l'homme de télévision qui produit également des artistes pour la scène, Laurent Ruquier. La caméra, ça change quoi?
Alors, la caméra, ça change tout. Alors, a fortiori pour un humoriste et pour ce qui est
de ce concours
des candidats et des orateurs, c'est pas seulement la caméra, c'est aussi les 1000 personnes qui étaient là au cirque d'hiver. En plus, c'est une piste de cirque par définition. Il y a du monde vraiment qui entourait les candidats. Ça n'était pas simple.
La caméra, c'est quand même pas rien parce que dans l'éloquence, il y a les mots. Vous l'avez dit, il y a la voix, il y a les corps, il y a les regards, il y a une gestuelle, il y a des déplacements.
Tout va jouer.
Qui compte énormément. À la télévision, tout ça, c'est orchestré.
Bah, de toute façon, Bertrand Perrier, il sait exactement donner ces conseils-là, c'est-à-dire il vaut mieux ne pas trop bouger les mains ou ne pas mettre sa main devant son visage quand on parle ou ne pas avoir des gestes trop saccadés.
C'est de l'éloquence pour la télévision. C'est encore très,
mais
très
vrai.
Difficile.
Non, c'est pareil pour un entretien d'embauche quand il n'y a pas de caméra. On vous juge aussi sur les mouvements que vous faites.
Oui,
c'est pareil.
Oui, mais c'est-à-dire qu'il y a crever l'écran, puisqu'on entend Gisèle qui dit ce soir je veux crever l'écran, et prendre le public à bras-le-corps. Et c'est quand même pas la même chose. Combien de pièces de théâtre, Laurent Ruquier, on a vu totalement aplati par la captation télévisuelle?
Ah, ça c'est vrai, moi je suis pas pour les captations de toute façon.
C'est
donc
vrai.
Oui, c'est vrai que le spectacle vivant, ça se passe dans les salles. Mais oui, bien sûr que la caméra...
Et là vous faites quelque chose qui est une sorte de combinaison des deux, spectacle vivant et spectacle
mais
télévisuel.
Mais quand même, ce qu'on retient, c'est le discours.
Moi, je trouve que ça rejoint beaucoup de questions qu'on se pose depuis quelques mois, quelques semaines, nous tous, et on l'a vécu notamment pendant toute la période aiguë des Gilets jaunes. Il y avait une spécificité à ce mouvement, c'était de ne pas désigner de porte-parole officielle. Du coup, ceux qui ont fait entendre leur voix, c'est ceux qui, naturellement, parlaient mieux, plus fort et plus distinctement que les autres, avec un nouveau mode de sélection qui est
«
je parle seul devant ma caméra »
Même
sur
si on
Facebook.
Entendait parfois des façons de parler qui étaient différentes de ce qu'on avait l'habitude d'entendre sur les plateaux avant.
Mais bien sûr.
Et ça a été très très marquant dans effectivement ces différentes semaines des Gilets jaunes. Même si au final, la télévision, la radio...
A opéré sa sélection darwinienne.
Exactement, bah oui, ce qu'on appelle les bons clients, ça existe aussi chez les Gilets jaunes. Et au final, eux aussi, qui parfois reprochaient le fait qu'on voyait toujours les mêmes à la télévision, au bout de je ne sais combien de semaines de Gilets jaunes, on voyait toujours les mêmes Gilets jaunes à la télévision aussi.
Et alors vous l'expliquez comment, vous, le bon client?
Parce que c'est comme ça, parce que les journalistes, c'est normal, ils cherchent l'efficacité, ont besoin d'avoir quelqu'un qui va pas leur laisser trop de blanc à l'antenne et qui va pouvoir réagir, peut-être surréagir même, à un débat, une conversation. Moi j'essaye d'ailleurs, c'est quelque chose contre lequel je lutte, même parmi les invités. Il m'arrive parfois d'être en désaccord, c'est très rare, mais ça m'arrive.
Dans On n'est pas couché.
Oui, avec Catherine Barma,
qui Barma,
mais c'est
productrice.
Pas un bon client par exemple. À propos d'un artiste, parce que, tiens, je vais penser à Grégory Gadebois, par exemple, qui est un acteur qui est plutôt introverti, qui parle peu. Moi, je sais que j'ai un plaisir, j'ai pas de problème à interviewer des gens qui sont, a priori, pas bons clients. Je dirais même, je préfère ça.
Pourtant, Laurent Ruquier, la liste est longue des artistes, des personnalités qui n'iront jamais dans cette émission, précisément parce qu'ils trouvent leur parole trop hésitante, trop fragile, pas assez solide. Cette oralité,
faut lutter
pas
contre
assez
ça.
Solide
faut lutter contre
face
ça.
À vous, face à vos chroniqueurs.
Moi, j'adore les mauvais clients, en fait.
C'est vrai.
Mais vraiment.
Alors qu'on n'est pas couché, on a l'impression que c'est le temple de l'éloquence.
Non,
c'est
non,
le
non,
temple
pas
de l'éloquence.
Pas du tout, j'adore.
Pas du tout.
J'adore
pas du tout. Non, non, mais comment vous pouvez dire ça? Vous avez mis en place un dispositif depuis 13 ans qui pousse ça à son maximum. Non. Le curseur est à son maximum.
Bah, prenez par exemple Christine Angot. On peut pas dire que ce soit la spécialiste de la télévision et celle qui va être formatée pour parler à la télévision et avoir forcément le discours le plus éloquent ou le plus... Mais ce qui compte, c'est le contenu, c'est ce qu'elle dit, c'est pas la forme. Donc, vous voyez, c'est pas forcément Christine Angot une bonne cliente dans la façon d'exprimer ses idées, mais elle les exprime.
Non, ça c'est génial, parce que là, vous me parliez des invités, et là, on peut parler en effet des chroniqueurs, parce que là aussi, ça fait 30 ans, Laurent Ruquier, 28, si on compte exactement depuis, en fait, vos premières émissions en bande à France Inter, que vous castez des bons mots, des gens capables de faire des bons mots, des grandes gueules, des voix, des personnalités. À chaque fois, ça passe par l'oral. Mais des émissions de bande, vous en avez fait sur France Inter, sur France 2,
absolument,
sur RTL.
J'ai pas changé en fait.
Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça.
D'abord, c'était des humoristes. Ici, à France Inter, dans un premier temps, ça a été des humoristes pendant 5 ans jusqu'en 95, d'Auriel Assiré. Ensuite, les émissions qui, les cinq années suivantes, puisque je suis resté 10 ans ici, c'était effectivement des gens venant plutôt de la société civile ou en tout cas des personnalités comme Gérard Miller, un dessinateur Philippe Gueluc, une journaliste Monique Pantel, des gens très différents mais qui n'étaient pas humoristes. J'ai fait les deux.
Ouais.
Et puis j'ai effectivement toujours fait un peu mon marché comme ça chez les, ce qu'on appelle là pour le coup les bons clients.
On écoute Yann Moix, il était je crois face à Luchini.
Poiesis, ça veut dire il y avait quelque chose qui n'était pas là, qui n'existait pas, et poiesis, ça veut dire en fait le menuisier qui construit une table à partir de morceaux de bois, c'est un poète dans la mesure où il y avait quelque chose, il n'y avait rien, et lui il en fait quelque chose. Et ces textes qui n'étaient plus rien, car à force de les avoir appris par cœur, à force de les avoir entendu, mal dit, de les avoir trop dit, trop prononcé, mal vu, bâclé, on est devenus tous, comme disait Peggy, des assassins des textes.
Pour chacune de vos émissions de bande, vous avez casté, je l'ai dit.
Lui, il aurait gagné le grand oral, Yann Moix.
Moi, c'est ce que je vous dis, c'était On n'est pas couché, c'est la finale du concours d'éloquence. Le choix des chroniqueurs de On n'est pas couché, c'est la finale du concours d'éloquence de la télévision française. Et même, je vais vous dire, Laurent Ruquier, et c'est pas vous qui allez dire le contraire, il y a une forme de talent show qui est devenue super scénarisée.
C'est vrai, c'est
pas chaque
vrai.
Année,
c'est vrai, c'est
dans
pas
la
vrai.
Presse, on voit des noms. Alors, qui serait susceptible de remporter
mais
la
vous
finale
vous trompez, je vous ai donné un
avec
exemple.
Des sondages,
je vous ai donné un exemple, Christine Angot, je peux vous en donner un autre.
Mais Christine Angot, elle venait de commettre un coup d'éclat mémorable sur un plateau de l'émission politique.
Oui, mais c'est pas la reine de l'oralité, vous voyez.
Mais c'était un coup d'éclat, on entendait
parce qu'elle
une
est
voix.
Sincère. Et je donne un autre
allez-y.
Exemple. La première année d'On n'est pas couché, c'était, parce qu'on croit toujours que c'est Éric Nolot, mais avant Éric Nolot, il y a eu Michel Pollack. Ouais. C'était Éric Zemmour et Michel Pollack. Mmh. Michel Pollack, ça n'était pas un grand orateur, loin même d'être un grand orateur dans l'émission. C'était difficile. Ce qui était intéressant, c'est ce qu'il disait. Je me souviens, d'ailleurs, ça agaçait beaucoup de gens. Il prenait toujours un livre totalement inconnu, quasi introuvable dans les librairies, et il faisait presque 10 minutes dans l'émission là-dessus. C'était presque ce qu'on appelle aujourd'hui à la télévision, mais déjà à l'époque, un tunnel. Mm-hmm. Et ça m'a pas empêché de garder Michel Pollack pendant l'année. Non, j'ai pas eu que des grands oraux. Alors là, évidemment, j'ai un avocat, Charles Consigny, donc je peux pas dire le contraire que
qui parle très bien, mais dont on ne retient
orateur, évidemment.
Pas grand-chose.
Ah, ça, c'est, ça, chacun, alors.
Ça, chacun a son opinion.
Chacun
c'est vrai,
son opinion.
C'est vrai. Enfin, c'est vrai. Oui et non. C'est-à-dire que cette émission.
Non, par exemple, là, sur les Gilets jaunes, depuis quelques semaines, Charles Consigny, il surprend parce que on a plutôt l'impression qu'il est plus à gauche que à la droite où on
que
avait envie.
Ce pourquoi vous l'aviez recruté.
On avait envie de le placer. Oui, ouais. Parce que c'est vrai que le principe même de l'émission, ça a été pendant de longues années. Un peu moins parfois, mais en tout cas sur les premières années. Et là, c'est ce que j'ai repris, de prendre quelqu'un de droite et de gauche, ça c'est vrai.
Mmh. Et pourtant, Laurent Ruquier, elle donne quand même l'impression, cette année, particulièrement l'émission, de moins imprimer. On a l'impression qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses autour de nous et qu'il s'en passe moins dans On n'est pas couché.
Parce que les journalistes s'intéressent à autre chose. Et moi, ça, alors je vais vous dire, ça me va très bien.
On vous lâche la grappe
hein. Ah, pff, alors là, moi, je suis très heureux comme ça. Ne changez rien. Ah non, vraiment, ça me va très bien.
Vous allez et me puis, dire qu'à l'époque où vous cherchiez à faire du buzz, on vous le reprochait et maintenant, vous n'en faites moins.
Et puis, les choses se sont banalisées. Oui. Non, d'abord, moi, j'ai jamais cherché à faire du buzz. Moi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai toujours fait exactement les mêmes émissions. Que ce soit ici à France Inter, que ce soit même dans l'émission qu'on qu'on oublie parfois, mais on a tout essayé, que je faisais tous les soirs pendant 8 ans sur France 2. J'ai toujours pris les grandes gueules de Gérard Miller, même déjà à l'époque Pierre Bénichoux, Claude Sarraute, des gens qui disaient ce qu'ils pensaient. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus difficile, parce que quand vous faites ça aujourd'hui, vous avez je ne sais combien de personnes sur les réseaux sociaux qui protestent en disant « Ah mais alors, c'est pas bien, vous avez vu ce qu'il a dit sur un tel ?» Mais moi, je n'ai pas changé. Je cherche pas à faire le buzz, j'ai jamais cherché à le faire, je le fais. Ou alors, c'est que
chercher
je le fais depuis 30 ans.
Chercher à faire le buzz, en réalité, c'est que On n'est pas couché, c'est une émission avant les autres, a cherché à réfléchir à ce que c'était qu'une séquence de télé, une séquence de télé qui s'exportait parfaitement bien sur les réseaux sociaux et qui alimentait la conversation sociale.
Ceux qui font le buzz sur les réseaux sociaux, pardon de vous dire, ce sont ceux qui se servent de partie de l'émission pour avoir plus de clics sur leur site internet, que ce soit des journaux ou
ces parties de l'émission, elles ont été découpées et envoyées. Peu importe, il se trouve qu'aujourd'hui, on s'en sert moins et qu'il y a moins...
Il y a un service qui s'occupe de ça, c'est vrai. Moi, je m'en occupe pas, alors, pour tout vous dire. Je ne sais absolument pas ce qui se
mais
passe.
Mais il y a moins à prendre dans l'émission aujourd'hui, peut-être.
C'est pas vrai, parce que, on m'emmerde encore pour certaines séquences vraiment En fait, je crois qu'on s'intéresse pas aux choses qui sont intéressantes aujourd'hui.
On m'emmerde pour certaines séquences. Tout ça parce que vous avez fait une blague épouvantable à la Miss France.
Pas épouvantable. Là, comme on en a fait 10 000 fois. Comme si, alors non, mais ça me fait tellement rire. Comme si le concours Miss France sur TF1, c'était un concours et d'éloquence et d'intelligence auquel assistaient les téléspectateurs une fois par an. On n'a pas le droit de dire que Miss France est belle. Et puis qu'elle fait bander les téléspectateurs. Faut surtout pas dire ça. Et pourtant, c'est le but de l'émission. Tous les ans, une fois par an, je leur dis, vous voyez. N'importe quoi. Non mais que les journalistes se servent de ce qu'on dit pour faire le buzz, c'est ça qui est pitoyable.
Elle vous lasse cette émission ou pas du tout? Vous prenez le même plaisir tous les samedis.
J'ai moins de plaisir sur la partie politique, parce que c'est très compliqué. Je trouve la vie politique, c'est compliqué chez nous, j'ai moins de plaisir là-dessus. Mais sur la partie culturelle, j'ai toujours autant de plaisir à recevoir les invités, à aller au théâtre.
Pourquoi rien ne bouge dans On n'est pas couché? C'est-à-dire en 13 ans, tout a changé autour de vous et vous, ni le générique, ni sa typo, ni sa musique, ni le format de l'émission, ni son décor, ni ses lumières.
Je vais vous dire pourquoi, c'est que tout simplement ça continue à bien marcher, à très bien marcher.
Un peu moins bien qu'avant quand
même. Mais non, pas un peu moins bien qu'avant, j'étais sûr que vous alliez me dire ça. Alors j'ai la réponse déjà toute prête. Si vous comparez forcément les chiffres dont on n'est pas couché aujourd'hui avec ceux d'il y a 10, 13 ans, ou même 10 ans, ou même 5 ans, vous savez très bien quand même que le paysage audiovisuel a changé. Qu'on regarde plus la télévision comme avant, qu'il faut regarder le nombre de gens qu'on fait sur les tablettes, sur les replays et autres. Et c'est une des émissions les plus regardées en replay sur France 2. On n'est pas couché. L'autre raison, c'est qu'elle passe de plus en plus tard, puisque maintenant il y a un feuilleton sur France 2 et donc on démarre jamais avant minuit moins le quart, minuit moins 10. Donc on fait pas le nombre de personnes devant l'écran qu'on faisait avant. Ça, c'est vrai. Mais en part de marché, citez-moi d'autres talk-shows qui font aujourd'hui plus de 10%. À partir du moment où la TNT est arrivée, ce qui les a arrangés, eux, c'est pas qu'on parle en part de marché, c'est qu'on parle en nombre de téléspectateurs. Parce que ça les arrangeait, ça disait, on a 1 million de personnes, ça fait important. Donc, sauf que personne ne dit que ça fait 5 ou 6% de part de marché. Oui, 5 ou 6%. Petit. Que ce soit Quotidien de Yann Barthès, que ce soit Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste, que ce soit Thierry Ardisson qui fait 3% le dimanche soir avec Salut les Terriens. Personne, tout le monde fait, 1 million, c'est formidable. 3% de part de marché. J'en fais au minimum, chaque samedi soir, au minimum 15%. Alors, quelle est l'émission qui marche et quelles sont celles qui ne marchent pas?
Bien, bien. Donc, et le grand oral, il aura une suite en fonction de la part de marché, j'imagine?
Ah, ça, alors là, faut demander au producteur. Moi, je ne suis qu'un pion, un passeur dans cette émission. J'ai une chance de ne pas être producteur, moi, à la télévision. Oui. Moi, ma boîte de production, elle sert à produire des artistes sur scène, mais pas du tout de la télévision. Donc, je suis tranquille.
Merci beaucoup, Laurent Ruquier. Voilà, la première du Grand Oral, c'est demain soir sur France 2. C'est la fin de l'émission. Merci Laurent Ruquier et bonjour Ali Rebeil.
Bonjour Sonia De Villers.
Sophrologie?
Ben oui, on s'intéresse à la sophrologie que l'on confond parfois avec la méditation, l'hypnose. On va essayer d'y voir plus clair. C'est très confus parce qu'il y a plein de courants en sophrologie. Quand vous tapez sophrologie sur un moteur de recherche, c'est assez difficile de s'y retrouver.
Mais on ne tape pas sophrologie sur un moteur de recherche. On écoute grand bien vous fasse.
Exactement, il faut écouter l'émission et nous appeler au 01 45 24 7000.